Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous et Québec Science. Au programme, les habitudes de lavage à revoir, comment choisir une résidence privée pour aînés et le ciel étoilé disparaît plus vite que prévu en zone urbaine. Pourquoi? Bonne écoute!
Des habitudes de lavage à revoir. Un texte de Rémi Leroux et Marie-Ève Bergeron, paru le 12 juillet 2022 dans Protégez-vous. Vous souhaitez limiter l'impact environnemental de votre lessive? Voici comment vous y prendre, du choix de la laveuse au séchage des vêtements, en passant par le type de détergent utilisé et la fréquence des lavages. Le lavage occupe une place importante dans le grand cycle de vie d'un vêtement. Or, cette étape, maintes et maintes fois répétée, a des conséquences sur l'environnement. Elle exige en général beaucoup d'eau et d'énergie. Les détergents utilisés peuvent contenir des substances nocives pour la faune et la flore, voire pour la santé humaine. Et l'usure des vêtements synthétiques provoque la dispersion de microplastiques dans les cours d'eau de même que dans les nappes phréatiques. Toutefois, le plus grand impact sur l'environnement demeure la production même de vêtements, explique Ronnie Carlson, responsable des tests pour Rad & Ron, un magazine suédois de consommation, membre, comme Protégez-vous, de l'International Consumer Research and Testing, ICRT. L'important consiste avant tout à acheter moins de vêtements et à utiliser plus longtemps ceux que vous possédez. Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos jeans, chemises, t-shirts et sous-vêtements de plusieurs façons qui vont du choix de la laveuse à celui du détergent en passant par la fréquence de lavage. En effet, faut-il vraiment laver tous les vêtements après les avoir portés une seule fois? Ce dossier vous présente plusieurs solutions pour choyer votre coton ouaté préféré tout en réduisant l'impact environnemental de vos brassées. Notre test de détergent, nos conseils pour repérer les produits écologiques et notre article sur les fibres à microplastiques constituent un excellent point de départ. L'usage et l'entretien des vêtements. Selon le rapport Fashion on Climate, publié en 2020, 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la mode proviennent de l'usage et donc de l'entretien des vêtements. C'est un fait. La laveuse est gourmande en eau et en électricité. Or, si vous lavez votre linge à l'eau chaude, sachez que de 80 à 90% de l'énergie utilisée sert à chauffer l'eau, précise Cendric Bouchard, conseiller en communication à Hydro-Québec. Le séchage a lui aussi des effets importants sur l'environnement. Une sécheuse non seulement est très énergivore, en moyenne 597 kWh par an contre 131 kWh par an pour une laveuse, selon les données d'Hydro-Québec, mais elle contribue en outre à la dispersion de microplastiques dans l'atmosphère. Une étude publiée en janvier 2022 par l'American Chemical Society révèle que pour un T-shirt, par exemple, le processus de séchage libère jusqu'à deux fois plus de microfibres que le processus de lavage. Toutefois, dans le cas de vêtements en polyester notamment, les fibres libérées sont des microplastiques qui se répandent dans l'atmosphère, la faune et les cours d'eau et qui peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire ou dans le corps humain. Plusieurs ingrédients qui entrent dans la composition d'un détergent ne sont pas en reste. Les stations d'épuration ne parviennent pas à supprimer totalement leur présence dans les eaux traitées. C'est le cas, par exemple, de certains agents tensioactifs, agents nettoyants comme l'alkylbenzène sulfonique linéaire ou LAS, et de solvants qui peuvent se révéler très toxiques pour la vie aquatique. Certains fabricants utilisent par ailleurs des adoucissants et d'autres substances chimiques complexes afin d'adoucir l'eau et d'augmenter l'efficacité des produits, mais plusieurs d'entre eux ne se biodégradent pas ou mal. Phosphonate, polycarboxylate, EDTA. Il y a enfin le cas des parfums, qui n'améliorent pas les performances du détergent et qui peuvent regrouper jusqu'à 200 ingrédients chimiques, tels que des solvants et des plastifiants. Selon un test de détergent à lessive réalisé en 2018 par le magazine italien de consommation Altro Consumo. Détergent en feuilles, une solution écolo? Ces dernières années, plusieurs fabricants ont mis sur le marché des détergents en feuilles. Les entreprises en question affirment que l'absence d'emballage les rend plus écologiques que les détergents en bouteille, en raison notamment du transport qui s'en trouve facilité. En l'absence d'analyse de cycle de vie de ces produits, il est cependant difficile de déterminer si elles disent vrai. C'est un argument populaire chez plusieurs d'entre elles, reconnaît Ronnie Carlson, du magazine suédois Radenron, qui a analysé certains de ces détergents, mais en général, dans les analyses de cycle de vie, l'incidence du transport est négligeable. Les détergents en feuilles testés par Protégez-vous sont, en outre, à peine plus efficaces que l'eau seule. Cela fait dire à notre confrère suédois que si un détergent comme celui-là n'ajoute rien à l'effet nettoyant du lavage, c'est un gaspillage total de ressources. Bref, il vaut sans doute mieux opter pour un produit liquide vendu en vrac ou encore certifié par une éco-étiquette reconnue, comme Safer Choice ou Eco-Logo. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Des habitudes de lavage à revoir », un texte de Rémi Leroux et Marie-Ève Bergeron, paru le 12 juillet 2022 dans « Protégez-vous ». Les gestes à poser. Pour réduire l'impact environnemental de vos habitudes de lavage, vous pouvez agir sur plusieurs fronts. Par quoi commencer? En utilisant des appareils peu énergivores. Si vous devez changer vos laveuses et sécheuses dans un avenir proche, privilégiez des équipements certifiés Energy Star. Dans notre plus récent test de laveuse, nous recommandons plusieurs modèles qui détiennent cette certification. Une laveuse Energy Star consomme 25 % moins d'énergie en moyenne qu'un modèle classique et 33 % moins d'eau, peut-on lire sur le site Internet de Ressources naturelles Canada. Hydro-Québec rappelle, par ailleurs, sur son site Web, que les laveuses sont plus éco-énergétiques lorsqu'elles sont chargées au maximum. La société d'État précise que deux petites brassées consomment deux fois plus d'énergie qu'une pleine brassée. Ensuite, il est essentiel de laver le linge à l'eau froide pour limiter la consommation énergétique de l'appareil. Notre test de détergent a été réalisé entièrement à l'eau froide et plusieurs produits ont été très efficaces pour éliminer les taches. Concernant le choix du détergent, privilégiez un produit respectueux de l'environnement. Les entreprises les plus éco-responsables sont celles qui arborent des certifications vérifiées par un organisme indépendant. Méfiez-vous néanmoins des fabricants qui multiplient les allégations environnementales génériques comme écologiques ou non toxiques. Par ailleurs, privilégiez un détergent vendu en vrac comme l'un de nos bons choix. Une analyse comparative de cycle de vie réalisée en Italie entre le modèle de commercialisation classique, récipient à usage unique, et le modèle rechargeable, récipient réutilisé, en vient à la conclusion que cette dernière option offre plusieurs avantages. Elle permet notamment une réduction de la demande d'énergie et des matériaux nécessaires à la fabrication des récipients, une diminution des émissions de substances toxiques liées à ce processus et une réduction de la quantité de déchets, entre autres atouts. Il suffit de réutiliser entre 5 et 10 fois en moyenne un contenant pour obtenir de tels bénéfices. Enfin, limiter l'utilisation de la sécheuse est un geste qui a également son importance. Non seulement vous réduisez de façon considérable votre consommation électrique en privilégiant la bonne vieille corde à linge ou le séchoir sur pied, mais vous ralentissez également l'usure de vos vêtements et vous réduisez la quantité de microplastiques que l'appareil est susceptible de répandre dans l'environnement. C'était Des habitudes de lavage à revoir, un texte de Rémi Leroux et Marie-Ève Bergeron, paru le 12 juillet 2022 dans Protégez-vous. Comment choisir la bonne résidence? Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février de la revue Protégez-vous. Vous cherchez une RPA pour socialiser, obtenir des soins et vous sentir en sécurité. Nos conseils pour en trouver une à la hauteur de vos attentes. Le Québec est la province canadienne où les personnes âgées de 75 ans et plus optent en plus grand nombre pour la vie en résidence privée pour aînés, RPA. Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, 17 % d'entre elles avaient opté pour ce type d'habitation en 2021, alors qu'ailleurs au Canada, ce pourcentage se situait entre 5 et 10 %. Pour ces aînés, quitter un domicile où ils ont vécu pendant plusieurs années, voire des décennies, peut s'avérer une expérience pénible. C'est une étape phare parce qu'on réalise le temps qui passe, souligne la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Ils réfléchissent ainsi au vieillissement, à la perte éventuelle de leur autonomie et même à leur mort. Leur capacité d'adaptation est aussi mise à rude épreuve dans ce changement de maison. C'est important qu'ils verbalisent ce qui est émotionnellement difficile, insiste la spécialiste. Que vous envisagiez d'aller vivre dans une RPA ou que vous accompagniez un proche dans ce projet, gardez en tête que ce déménagement peut susciter un choc émotif, surtout s'il est effectué rapidement. La décision est prise? Vous avez intérêt à dresser d'abord un budget et à déterminer les besoins auxquels la RPA devra répondre. Après quoi, informez-vous sur les résidences et visitez-en quelques-unes. Selon les experts consultés, la RPA parfaite n'existe pas, mais il y a moyen d'en trouver une où vous ou votre proche pourrez couler des jours heureux. Budgéter. La première étape consiste à faire un budget. Notez qu'en 2021, la SCHL évaluait qu'au Québec, le loyer mensuel moyen d'un logement sans service s'élevait à 1 922 $, alors que celui d'un appartement avec service atteignait 3 653 $. Attention! Des aînés commettent l'erreur de penser que leurs dépenses diminueront en déménageant dans une RPA puisqu'ils feront moins de sorties. Il y a en effet un changement dans le mode de vie. Cependant, si on rajoute tous les services, selon les besoins de la personne, le prix a tendance à augmenter, signale Patricia Girard, conseillère principale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Passez d'abord en revue les sources de revenus. Par exemple, les montants mensuels qui viennent d'un régime de retraite, d'un fonds enregistré de revenus de retraite, FER, ou d'un fonds de revenus viagers, FRV. À cela, il faut ajouter les allocations versées par les gouvernements du Québec et du Canada, telles que le régime des rentes du Québec, RRQ, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Si l'aîné est propriétaire d'une maison et qu'il décide de la vendre avant de déménager dans une RPA, la liquidation de cet actif doit être considérée dans les calculs. Une fois que la maison est vendue, cela augmente les possibilités, dit Patricia Girard. En vivant dans une RPA, l'aîné a aussi droit à des crédits d'impôt du gouvernement du Québec. En voici deux incontournables. Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Montant accordé aux personnes âgées de 70 ans et plus pour couvrir 36 % en 2022 des frais admissibles, services de buanderie, préparation de repas, entretien ménager, soins infirmiers et assistance personnelle. Il dépend des revenus de la personne si elle est autonome et si elle vit en couple ou non. Crédit d'impôt pour soutien aux aînés. Somme versée aux aînés de 70 ans et plus selon leurs revenus. En 2023, elle peut atteindre jusqu'à 2 000 $. Pour avoir l'heure juste, et pour profiter de tous les programmes et crédits d'impôt, vous pouvez faire appel à votre institution financière. Si la situation est plutôt complexe, par exemple, s'il y a plusieurs actifs en jeu, retenez les services d'un planificateur financier. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février du magazine « Protégez-vous ». Évaluez vos besoins. Avant de rechercher une résidence, il faut déterminer les besoins à combler. Sachez que les RPA sont classées selon les services qu'elles donnent. Catégorie 1. Services offerts. Organisme à but non lucratif qui offre au moins deux services de base, la préparation de repas, des mesures de sécurité, l'organisation d'activités de loisirs et une aide domestique. Catégorie 2. Entreprise privée qui offre au moins deux services de base. Catégorie 3. Résidence qui offre au moins un service de base en plus des soins infirmiers ou d'un service d'assistance personnelle. Catégorie 4. Résidence qui offre des soins infirmiers, un service d'assistance personnelle et au moins un service de base. Les RPA, qui font partie des deux premières catégories, accueillent des retraités en pleine possession de leurs moyens, alors que celles qui sont classées en 3 et 4 prennent soin de ceux qui ont besoin d'assistance au quotidien. Une même résidence peut recevoir des personnes de différents degrés d'autonomie. Par exemple, elle peut comprendre des logements où vivent des aînés qui obtiennent peu ou pas de services et une unité de soins qui héberge des gens semi-autonomes. Les locataires peuvent ainsi rester dans leur RPA, même si progressivement, ils ont besoin de davantage de services. C'est important de demander si la résidence est évolutive et si elle est capable de s'adapter aux besoins de l'aîné, note Nathalie Perrault, directrice générale du portail Résidence Québec. Si un locataire perd peu à peu ses capacités et qu'il se trouve dans une RPA d'une catégorie qui ne correspond pas à ses besoins, il doit quitter la résidence, ce qui entraîne un autre déménagement et une nouvelle vague d'émotions. Dès que la personne atteint 1,5 heure de soins par jour, elle doit aller dans un CHSLD ou une résidence intermédiaire. Les RPA ne sont pas équipés pour la garder, indique Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA. Des professionnels peuvent vous épauler pour déterminer dans quelle catégorie de RPA vous devez orienter vos recherches. Le travailleur social. Si votre proche parent est en perte d'autonomie, demandez l'aide d'un travailleur social. Vous pouvez en trouver un en contactant le guichet d'accès en soutien à domicile de votre région ou un CLSC. Au cours d'une visite, le travailleur social évalue l'état de l'aîné à l'aide, notamment du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Ce questionnaire passe en revue les capacités de la personne dans ses activités quotidiennes, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène personnelle, etc., et ses habiletés à communiquer, la locution, la vue et l'ouïe. Il examine aussi ses facultés mentales, la compréhension, la mémoire, le jugement, etc., et ses aptitudes à accomplir des tâches domestiques, préparer des repas, entretenir la maison, se déplacer, etc. Le conseiller en hébergement. Que l'aîné soit en perte d'autonomie ou pas, un conseiller privé en hébergement peut aussi donner un coup de main. Son travail consiste à effectuer des recherches pour trouver une RPA qui correspond aux besoins, aux intérêts, aux préférences en matière de logement ainsi qu'aux moyens financiers de son client. Le but, c'est d'amener la personne dans un endroit où elle va rester le plus longtemps possible, explique Nathalie Perrault. Le conseiller en hébergement peut-il vous suggérer une résidence qui présente des lacunes? S'il y a un problème avec l'un de nos clients, on va confronter la RPA. S'il n'y a pas de changement, on arrête de la recommander, indique Louis Sirois, président de l'Association des conseillers en hébergement du Québec, ACHQ. Il ajoute que ses membres partagent entre eux des informations sur les résidences problématiques. Sachez que ce sont les RPA qui rémunèrent le conseiller en hébergement. Dans nos ententes, elles ne peuvent pas refiler la note à l'aîné et celui-ci a droit à tous les escomptes et promotions en vigueur, insiste Louis Sirois. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, publié dans l'édition du mois de février dans la revue « Protégez-vous ». Le ciel étoilé disparaît plus vite que prévu en zone urbaine. Pourquoi? Un texte de Annie Labrecq, paru le 27 janvier 2023 dans Québec Science. Chaque année, la pollution lumineuse augmente de 7 à 10 % à travers le monde. L'observation des étoiles deviendra-t-elle impossible dans le futur? Ce n'est pas la première fois que les experts sonnent l'alarme à propos de la pollution lumineuse. Voilà qu'une étude publiée dans Science dévoile que le phénomène en milieu urbain est beaucoup plus important que ce que les satellites avaient mesuré auparavant. Le VIIRS, un instrument placé sur le satellite de la NASA Suomi NPP, avait mesuré en 2017 que la pollution lumineuse mondiale augmentait d'environ 2 % par année. Mais la nouvelle étude démontre que ce chiffre était sous-estimé. L'instrument distingue moins clairement la lumière ayant une longueur d'onde inférieure à 500 nm, donc les lumières bleues et violettes. Cela signifie que les ampoules DEL, qui possèdent généralement une longueur d'onde de 400 à 500 nm, passent inaperçues aux yeux du satellite. Les scientifiques allemands et américains ont pu faire ce constat en compilant les observations provenant de 51 351 citoyens et citoyennes sur une période s'échelonnant de 2011 à 2022. Les participants devaient compter le nombre d'étoiles visibles à partir de leur lieu de résidence à certains moments de l'année. On leur demandait aussi d'identifier parmi plusieurs cartes d'étoiles celles qui ressemblaient le plus à leur ciel nocturne. D'après les données recueillies grâce à la science participative, la luminosité du ciel s'accentue de 7 à 10 % par année, voilant du même coup de plus en plus d'étoiles pendant la nuit. Pour illustrer cette perte du ciel étoilé, les scientifiques indiquent que si aujourd'hui, un lieu compte 250 étoiles visibles, 18 ans plus tard, il n'en comptera que 100. Les ampoules DEL seraient les principales responsables de la pollution lumineuse. Les scientifiques estiment que la part de marché des DEL a augmenté de 1 % en 2011 à 47 % en 2019, à l'échelle mondiale. Ces résultats ne surprennent guère Olivier Hernandez, astrophysicien et directeur du planétarium Rio Tinto Alcan. Le passage aux lumières DEL il y a une dizaine d'années a eu un effet néfaste. Puisque les DEL sont économiques et consomment peu d'énergie, on a tendance à en mettre davantage pour l'éclairage, rapporte l'astrophysicien. La pollution lumineuse serait donc en grande partie le résultat de l'éclairage excessif et inutile dans les villes et dans certaines zones rurales. Dans un rapport technique publié en 2021, Olivier Hernandez et ses collègues se sont notamment attardés aux sources de pollution lumineuse dans la région de Montréal pour la période de 2012 à 2020. Si la métropole a adopté les lumières DEL, elle a cependant choisi de ne pas les utiliser au maximum de leur intensité. Lorsque Montréal a fait le passage aux DEL, nous avons réussi à les convaincre d'opter pour des lumières DEL avec 70 % d'intensité lumineuse au lieu de l'intensité maximale. La ville a fait les bons choix, car cela a permis de diminuer globalement la pollution lumineuse de 15 % sur le territoire montréalais, explique Olivier Hernandez. En examinant les images satellites, les scientifiques québécois ont remarqué que les plus grandes sources de pollution lumineuse proviennent entre autres des parcs industriels et des concessionnaires automobiles. même si l'administration municipale fournit des efforts pour réduire la pollution lumineuse, elle ne contrôle pas les choix d'éclairage des particuliers, des entreprises privées, des autoroutes provinciales, des serres, des concessionnaires automobiles, etc., énumère M. Hernandez. Le côté sombre de la lumière. La pollution lumineuse risque de perturber bien plus que notre plaisir d'observer le ciel étoilé. Elle a des conséquences physiologiques sur les humains, comme le débalancement de la production de mélatonine, les plantes et les animaux. Les auteurs de science mentionnent que les interactions entre les prédateurs et leurs proies risquent d'être déséquilibrées. D'autres études se sont penchées sur les conséquences de la pollution lumineuse sur la migration des oiseaux, sur la reproduction des lucioles et sur l'alimentation chez plusieurs espèces d'insectes. Quelques façons de diminuer la pollution lumineuse. Privilégier un éclairage dirigé vers le sol plutôt que vers le ciel. Opter pour des lumières aux couleurs chaudes. Utiliser des ampoules de moindre intensité. Contrôler la période d'éclairage selon l'heure de la journée. C'était « Le ciel étoilé disparaît plus vite que prévu en zone urbaine. Pourquoi ?» Un texte de Annie Labrec, paru le 27 janvier 2023 dans Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.